Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec les éditeurs Hugo Oliveira et Jean-Marc Rouillon autour du livre « Je courais en pensant à Anna », voyage à travers les luttes radicales italiennes des années 1970 de Pasquale Abatangelo, paru aux éditions Premier Matin de novembre, le 10 mars 2023 à la librairie Terranova.
Bonsoir à toutes et à tous, désolée pour ce problème de micro pas très intéressant. Bienvenue à la librairie Terranova. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Hugo Oliveira et Jean-Marc Rouillon pour présenter le livre de Pasquale Abatangelo, « Je courais en pensant à Anna », voyage à travers les luttes radicales italiennes des années 1970. Et je leur laisse la parole de ce pas. Merci beaucoup.
Bon, pour commencer, on voudrait d'abord faire un point d'information sur le cas d'Alfredo Cospito, qui est en grève depuis 4 mois et demi. Il a été condamné à la perpétuité réelle. C'est une loi qui est passée après ces épisodes. Et il est condamné au circuit fermé, au circuit spéciaux, d'isolement à très long terme. Donc... voilà, on va commencer par ça. C'est l'actualité. Nous, on parle d'un livre historique. Parce que quand Pasquale a été arrêté, c'était en 1974. Ça fait près de 50 ans. Donc aujourd'hui, on présente un vrai document sur les années 70-80 en Italie. Pour expliquer le côté exceptionnel de ce livre... je peux dire que j'ai été en Italie plusieurs fois ces dernières années et j'ai rencontré des acteurs de cette époque-là, des vieux camarades. Et chaque fois, toujours intéressé par la littérature prolétarienne et surtout les témoignages des acteurs réels, je posais la question, tu peux me donner quelques titres de livres qui seraient intéressants de traduire en français ? Et c'était toujours ce livre-là qu'on citait en premier. C'est qu'on soit ancien des Brigades Rouges, de Prima Linea ou de l'Autonomie, chaque fois on citait ce livre. Donc, par un concours de circonstances, on a réussi à avoir les droits de ce livre. Et une jeune camarade autonome l'a traduite, Marjolaine. Donc voilà. Et PMN était une structure très ouverte pour mettre en débat les expériences de la lutte armée. Donc le livre est là. C'est un livre, quand je dis un document, c'est un livre vraiment d'abord à la première personne. C'est très important par rapport à toute l'histoire de la lutte armée, qu'elle soit en Allemagne, en Italie, en France... en Espagne, d'avoir des documents à la première personne. C'est parce qu'on atteint la profondeur du livre, de son témoignage, à travers cette intimité. Et Pasquale part de toute son histoire pour basé sur un besoin de vérité. Comme il le dit, j'ai raconté ça vraiment sans fard. C'est pas un livre de propagande. Aujourd'hui, on fait pas un livre de propagande sur la lutte armée comme on l'aurait fait dans les années 70. Voilà. Et donc, Pasquale est né en Italie, mais dans un camp d'accueil pour les immigrés italiens qui avaient été chassés de Grèce. Bon, à la fin, je ne vais pas faire toute l'histoire de cette communauté. Des Italiens s'étaient installés à la fin du 19e siècle en Grèce. Et comme l'armée italienne avait occupé la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les atrocités de cette guerre, ils ont été chassés, tous les Italiens, même ceux qui n'avaient pas du tout collaboré avec l'armée italienne, ont été chassés et ils ont trouvé refuge. C'est un bien grand mot quand on lit tous les témoignages de ces centres de regroupement des Italiens venant de Grèce. Donc, on dirait en France, Pasquale, il est né avec le mandat de dépôt dans la bouche. C'est ça. Quand on fait venir une population, qu'on la laisse dans la misère la plus totale, qu'ils connaissent les maisons de correction, etc. etc. La vie de Pasquale était écrite à sa naissance. Il savait qu'il allait aller en prison. Et il a été en prison. Ça a été par le fait social, mais là, c'est une telle démonstration que ce n'est pas la peine d'aller plus en détail. C'est-à-dire qu'on passe du camp de réfugiés à la maison de correction et à la prison. Et Pasquale, ce qui est très intéressant dans son récit, c'est qu'il décrit ce cheminement social jusqu'à la cellule. Et la cellule, au début des années 70, c'est-à-dire dans un moment d'une explosion sociale, dans le moment d'une très forte politisation. Et Pasquale finit par se politiser. Il finit par se politiser. Au début, il est anarchiste un peu par facilité, quoi, hein, comme beaucoup de jeunes de cette époque. Et rapidement, il se lie aux autres prisonniers antagonistes qui ont des contacts à l'extérieur avec le mouvement d'extrême gauche à l'époque était très intéressé par la situation des prisons, l'oppression dans les prisons. Et il y avait vraiment des secteurs anticarcéraux qui ont fait un travail d'information, un travail de propagande. Et fait exceptionnel parce que en France, on avait connu les émeutes de 1974. Je ne sais pas combien, plusieurs dizaines de prisons ont brûlé en France. En Espagne, au moment de l'amnistie, il y a eu ce formidable mouvement de la COPEL. C'est des prisonniers organisés pour leur libération. Mais en Italie, ça a été un fait plus extraordinaire. C'est-à-dire que les délinquants, ce qu'on peut appeler prolétaires extra-légaux, comme on dit en Italie, se sont organisés eux-mêmes avec quelques militants d'extrême gauche pour faire une organisation de lutte armée. Ils ont décidé qu'ils allaient passer militer et dans une organisation de lutte armée, de s'affronter au pouvoir qui les opprimait dans les prisons. Et c'est comme ça qu'est née une organisation qui s'appelle les NAP, les noyaux armés prolétariens. Et ils ont commencé à agir. Dès ce moment-là, Pasquale ne parle plus avec le jeu, le simple jeu. Il est déjà collectif. Il est déjà militant collectif. Et il explique sa vérité, mais aussi il démonte des choses du mouvement. Par exemple, lors de son arrestation, tout le monde en Italie connaît l'histoire de Luca Mantini. C'est un militant du manifesto de Lotta Continua et qui, dans ce groupe, animait la section anticarcérale. Et au bout d'un moment, quand le manifesto n'a pas voulu passer, Lotta Continua n'a pas voulu passer à la lutte armée, toute une série de militants de Lotta Continua ont rejoint ces collectifs qui commençaient à se monter. Et Luca Mantini était très connu parce qu'il avait fait un collectif, il avait créé un collectif en Italie qui s'appelait George Jackson, du nom du militant des Black Panthers qui a été tué qui a été assassiné, disons, d'une fausse tentative d'évasion. Et donc, lors de leur première opération, qui est très connue en Italie, c'est difficile de... j'expliquerai pas ça à un public italien. Lors de leur première opération, ces militants ont été pris dans une fusillade avec la police. Luca Mantini a été tué. Un autre militant, Sergio Romero, a été aussi tué. Et Pasquale a été arrêté. Dès ce moment-là, l'histoire de Pasquale, son histoire de la lutte armée, se passe derrière les barreaux. C'est 20 ans de prison et 20 ans de lutte. Et c'est ce qu'il nous raconte précisément. C'est là où c'est intéressant aussi. C'est qu'il passe, quand les nappes sont réprimées au point de ne plus pouvoir agir, lui devient choisi avec toute une série d'autres militants emprisonnés et quelques personnes dehors, quelques militants dehors, de rejoindre les Brigades Rouges. Donc, avec toute l'histoire qu'on connaît, jusqu'au point... c'est-à-dire que quand... pour l'histoire de la place Alberti, tout le mouvement continue, malgré le livre de Pasquale, et de dire que c'était un piège qu'a tendu la police à ce commando et qui les a exterminés, qui les ont exterminés. Ben, Pasquale dit non, malheureusement non, c'est nous qui avons fait l'erreur. On devait attaquer une banque. Ça a été impossible, donc on a improvisé dans la voiture, on a dit on va aller à celle-là, je l'ai déjà faite quand j'étais délinquant, elle est facile, on va se la faire, et voilà. Tout ça, il l'explique en détail, mais encore aujourd'hui, malgré son livre, le mouvement continue à dire non, Luca Mantini, il est tombé dans un piège de la police pour l'exécuter. Mais voilà, donc c'est intéressant toujours les livres à la première personne, parce que c'est ça. Ça sort du cadre de... Parce que chaque fois qu'on parle de la lutte armée de ces années-là, 70, 80, on a plein d'histoires ou très mauvaises ou très idylliques sur ces épisodes. Non. Tous les militants de la lutte armée à cette époque sont des gens qui apprennent à lutter. Ils apprennent. C'est-à-dire que quand Luca Mantini monte dans la voiture, il n'a jamais fait de braquage de banque. Ils sont pressés parce qu'ils doivent acheter des armes absolument. Et ce commando dit, eh ben, on y va, eh ben, on va attaquer une banque. Et les nappes allaient très vite dans cette expérimentation parce qu'eux, ils avaient déjà dans leur vie d'extra-légaux fait des banques, volé des voitures. Donc, ils ont permis aux militants d'aller très vite. Et ils se sont crus très forts, comme il le dit. On va faire ci, on va faire ça. Et en fait, ils sont tombés sur trois flics qui prenaient un café. Et voilà comment le drame est arrivé. Où deux militants ont été abattus. À partir de ce moment-là, toute la vie de militante Pasquale se met en prison, se passe en prison, et il suit le parcours de la lutte armée qui se déroule dehors, qui se développe dehors, à l'intérieur de la prison. Mais non pas comme un prisonnier inactif qui est là pour que le temps passe et que le temps passera, Non, non. Il commence à théoriser avec les autres camarades à l'intérieur, c'est comment des prisonniers politiques peuvent avoir une action qui se lie à l'action du mouvement à l'extérieur. Et là-dessus, ils ont été très novateurs. Les militants italiens ont été extrêmement novateurs dans la tenue de leur procès en inventant le terme de procès guérilla, c'est-à-dire faire des procès, le procès des juges, le procès de l'État italien, le procès de la bourgeoisie. Et aussi par une activité à l'intérieur des prisons. Parce qu'il faut, lire, par exemple, le passage sur l'émeute de la Zinara, où les détenus sont armés de pots de lait bourrés de dynamite et se défendent contre les assauts de la police jusqu'à ce que la prison soit entièrement détruite. Donc, je monopolise la parole. Bizarre, parce que c'est la première fois que je présente un livre que je n'ai pas écrit. Alors, j'ai beaucoup travaillé ce livre, mais voilà, on ne peut pas se mettre dans l'image la peau de l'auteur. Malheureusement, Toulouse n'a pas été mise au programme lors du voyage de Pasquale et en France. C'est dommage. Mais bon, je vois que tu veux me remplacer là.
Non, mais sens-toi libre d'y aller.
Donc on fait le processus. Vraiment, on est trop chiant. Vous intervenez, vous posez les questions et tout ça. Pasquale est très populaire en Italie. Très, très, très populaire, du fait de cette lutte en prison, du fait de ce prisonnier qui n'a jamais renoncé en prison, qui ne s'est pas dissocié, qui ne s'est pas repenti, mais plus, qui a continué à lutter effectivement en prison, en créant des situations politiques à partir de la prison. L'émeute de la Zinara, c'est une chose absolument démentielle. Ou l'émeute de la centrale de Trani, sont des épisodes qu'on n'a pas connus, même en France, avec les très grandes émeutes qu'il y a eu en prison à la fin des années 70 et au début des années 80. Rien n'est comparable. Rien n'est absolument... C'est une telle volonté politique, organisation politique des prisonniers qu'on n'a pas connu ça dans un autre pays. Pasquale était tellement populaire en Italie que lors de l'enlèvement, c'est-à-dire 4 ans après cette malheureuse fusillade dans la banque, quand les Brigades Rouges enlèvent Aldo Moro, ils demandent un nombre très restreint de prisonniers en échange et ils demandent Pasquale. Et un autre prisonnier, qui était aussi un prisonnier extra-légal, mais qui était emprisonné depuis les années 60, qui était aussi un braqueur de banque communiste. C'est les deux prisonniers.
Sante Notar Nicole.
Voilà, poète et militant politique. Donc c'est pour vous montrer l'importance que pour une guérilla aussi sérieuse que les Brigades Rouges, l'importance de Pasquale et de tout le mouvement qui représentait comme le prolétariat extra-légal. Et cette organisation des prisonniers politiques, parce que là, il n'y a plus les prisonniers sociaux qui étaient devenus des prisonniers politiques par leur position ou par leur action à l'extérieur, il n'y a plus de différence. Ils sont dans les mêmes collectifs à l'intérieur des prisons, les collectifs de Campo, comme ils disent, après l'opération des chamois qui isole tous les prisonniers politiques du reste des autres de l'autre détention. Et
juste pour préciser sur le circuit des chamois et des camocci en italien, c'est une réponse à l'offensivité du mouvement ouvrier apporté par l'État italien en 77. Et c'est l'ouverture de toute une série de prisons spéciales, à commencer par la prison de la Zinara. Et donc la Zinara qui est située sur une île, avec la volonté d'isoler le prolétariat organisé politiquement au sein des prisons traditionnelles, donc les détenus politiques, du reste du prolétariat extralégal italien. Parce que justement, cette jonction qui se fait au travers de l'expérience des nappes devient trop explosive pour le pouvoir d'État. Et donc, en juillet 77, on a toute une série de prisons qui s'ouvrent. Et la bataille pour la fermeture de ces prisons-là, à commencer par la bataille pour la fermeture de la Zinara, ça va devenir l'un des éléments centraux de la lutte à la fois à l'intérieur des prisons, mais aussi quelque chose qui va être porté par les organisations à l'extérieur, en particulier par les Brigades Rouges. Et je voulais repréciser des petites choses tout à l'heure par rapport à la question de la lutte pour la mémoire. En fait, le livre de Pasquale, il s'ancre pleinement dans le fait que la lutte des classes, c'est aussi une lutte pour la mémoire historique et une lutte pour la vérité. Ça passe par raconter justement ces récits-là et qui permettent, par la même occasion, de déblayer tout un tas de mensonges historiques portés par le pouvoir. Donc ce qu'a cité Jean-Marc tout à l'heure. On peut aussi parler du fait que pendant très longtemps, le discours d'État porté sur les Brigades Rouges, mais aussi sur Action Directe ou encore la RAF, c'était que c'était des groupuscules commandités par des États étrangers. On disait que les BR étaient dirigés par les services secrets bulgares, mais aussi que AD, c'était par l'Iran. Et en fait, ce dont on se rend compte grâce à ces témoignages-là, c'est que non, en fait, ces mouvements révolutionnaires, ils émanent du prolétariat organisé. Et dans le cadre de l'Italie, c'est vraiment la jonction politique entre détenus prolétariat extralégal et détenus politiques.
La bourgeoisie ne supporte pas que nous puissions nous organiser dans un endroit, nous organiser, réfléchir et frapper. Ils ne supportent pas l'autonomie. Si on les frappe vraiment très dur, ils disent « Ah non, c'est pas ces clampins-là qui peuvent le faire, ça, c'est, ils sont téléguidés par tel service secret, la Stasi, les Bulgares, etc. etc. » Mais en fait, c'est ce qu'ils attaquent, c'est notre capacité à pouvoir réfléchir, prendre une direction politique, nous organiser et frapper. Ça, ils ne veulent pas l'admettre. Parce que pourquoi ? Tout simplement parce que c'est reproductible. Toujours, on avait ce terme de reproductible dans la tête. C'est-à-dire, si nous, on disparaît, ben, d'autres gens, on a mis une graine dans la tête des gens. Vous pouvez aussi vous organiser, désigner, comprendre le système au point de voir quels sont les nœuds les plus importants concentrés dans des personnalités. Voilà. Ou des actions d'autres types. Je vais rebondir sur la lutte pour la mémoire. Bon, moi, j'ai fait mon job avec Action Directe. J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit une vingtaine de livres, toujours sur témoignages de la lutte en prison, de la résistance en prison, des autres prisonniers surtout, hein, pas jamais comme acteur principal. Parce qu'on doit témoigner des situations d'exploitation. C'est pour ça que j'ai beaucoup édité de livres d'ouvriers sur leurs conditions d'ouvriers. Et comme militant, je préfère que ce soit les militants qui racontent leur histoire, qui racontent une lutte politique, qu'un journaliste, alors là on en passe, mais surtout que l'université. L'université est un centre de la contre-information sur les luttes radicales. Et ça, au point où, par exemple, après-guerre, les presses universitaires de France étaient directement financées par la CIA. C'est-à-dire qu'à travers les POUF, ils contrôlaient la sortie de tous les doctorants, de tous les textes de doctorants. Ceux-là peuvent être publiés, ceux-là ne sont pas publiés. Voilà. Malgré tout, il y a une résistance. La preuve, on publie. La preuve, on défend ce livre. Mais il faut savoir, bon, ça aussi, dans ce, il n'y avait pas seulement que POUF, je crois qu'il y avait 14 maisons d'édition françaises qui étaient financées par la CIA. Il faut dire que l'implication, la guerre contre-révolutionnaire, elle se passe aussi à l'université. Il n'y a pas la lutte de classe, ça n'arrête pas aux portes des usines, comme on l'a pensé pendant des décennies. La lutte des classes, elle parcourt tous nos rapports dans ce de putain de monde capitaliste. Donc, même, je vais dire un exemple qui va vous surprendre, mais... Face au réalisme soviétique, la CIA a financé l'art abstrait. Mais il y a des gens qui sont surpris, par exemple des anciens, de savoir que le grand Heinrich Böll, le grand auteur allemand, qui a pourtant écrit des choses très radicales, mais comme il était anti-soviétique, sa maison d'édition était totalement financée par la CIA. Donc, dans cette lutte, l'essentiel, c'est d'avoir à tout moment un témoignage honnête. Hein. Si c'est un dissocié, vous allez lire, par exemple, le livre de Francis Kinney, qui est totalement dissocié des Brigades Rouges. Sur les Brigades Rouges, c'est à mourir de rire. Parce qu'il raconte des épisodes que je connais particulièrement puisque j'étais un des acteurs, et il dit totalement le contraire au nom de ce jeu. Voilà.
J'allais rajouter par rapport au rôle des à la fois des États impérialistes et des services secrets que ça a été aussi quelque chose qui a structuré la séquence italienne à partir du début des années 70. La stratégie de l'attention, elle a été à la fois, bien entendu, commanditée par l'État italien, mais soutenue en grande partie par l'OTAN et par les services secrets d'autres États impérialistes. On peut penser aussi, par exemple, au rôle qu'a joué l'opération Gladio dans la stabilisation des intérêts de l'OTAN en Europe.
Dont on n'a jamais découvert en France la structure, hein. Elle est sur le papier de l'OTAN. Il y avait une structure Gladio en France. Il n'y a jamais eu de scandale Gladio en France. Pour vous dire, le Gladio, parce qu'en ce moment, on nous parle de l'OTAN comme une structure militaire assez neutre, pro-démocratique. Mais il faut savoir qu'en Italie, parce que là, ils ont vraiment travaillé ce sujet, en Italie, c'est des dizaines de morts. De personnes comme vous, qui étaient dans une gare, dans un train, ont été assassinées par l'OTAN, par des militants d'extrême droite qui ont été dirigés par des membres des services secrets américains et l'OTAN. Et italiens, oui, c'était une collaboration étroite. Et pour vous dire jusqu'où c'est allé, dans les documents déclassés de services secrets américains pour la période du moment du référendum de la royauté à la République, à la fin des années 40 et au début des années 50, les politiques américains ont décidé de ne pas déclasser ces documents parce qu'ils portaient honneur aux États-Unis, pour vous dire ce qu'ils ont été capables de faire. Et voilà, c'est moi. Quand je vois aujourd'hui des camarades d'extrême gauche dire oui, l'OTAN, c'est dans les conflits, c'est pas si mal. Ouais, bof. Pour vous dire comme structure de contre-révolution, ça a été une structure extrêmement violente en Europe. Voilà. On était... Oui, parce que c'est la première fois qu'on le fait tous les deux, ce numéro.
Je me dis peut-être on peut parler de...
Attends, j'ai retrouvé le fil. Ça y est. Donc, l'importance des prisons a été, et de la libération des prisonniers organisés, a été une constante de la lutte des organisations de lutte armée. En Italie, on sait, par exemple, que dès l'enlèvement du magistrat Sossi en 1974, les Brigades Rouges ont demandé la libération du premier groupe de lutte armée qu'il y avait eu à la fin des années 60 et au début des années 70, le groupe 22 octobre, qui était un tout petit groupe qui s'est lancé dans la bataille seul, assez démuni, mais qui a terrorisé les grands patrons de Turin pendant plusieurs mois. Et donc, les Brigades Rouges avaient demandé leur libération. Il y a d'autres opérations sur les prisons, dont l'enlèvement du directeur de la pénitentiaire, Dourceau. Et là encore, on demande la libération de prisonniers, mais aussi le rétablissement des conditions normales dans les prisons suite à la militarisation et à l'isolement total des prisonniers. Et je voulais dire, par rapport à l'OTAN aussi, si la torture a été appliquée à partir de l'année 80 en Italie, c'est sous directive de l'OTAN. C'est-à-dire où les Italiens le reconnaissent. On a reçu l'ordre de torturer les prisonniers qu'on faisait. Il y a encore un prisonnier qui est très, très emblématique aussi, qui est toujours détenu en Italie, Di Leonardo, qui a été torturé dans un caisson de ciment pendant plusieurs jours. Il est toujours en prison, là, actuellement. Hein. Donc... qui a été arrêté lors de l'enlèvement du général américain Dozier. Donc, cette lutte des prisons a toujours été au cœur aussi de la lutte armée italienne.
Donc. Et pour bien comprendre le rôle de la contre-insurrection à ce moment-là, de la torture et de l'influence des services secrets étrangers, mais aussi de la politique de l'État italien. La raison principale pour laquelle tout ça s'est déployé, c'est parce qu'on faisait face à un mouvement révolutionnaire massif qui traversait toutes les strates de la société italienne, toutes les strates des classes populaires italiennes, et qui s'est ouverte dès 68 et qui a couru jusqu'au milieu des années 80. Du coup, c'est vraiment l'un des épisodes révolutionnaires les plus longs post-Seconde Guerre mondiale en Europe. Et j'ai perdu le fil, désolé. J'allais dire un truc que j'ai oublié.
Donc, pour parler de chiffres, c'est des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes. C'est, par exemple, pour les Brigades Rouges, on a mis les chiffres dans le glossaire. C'est 1200 personnes, essentiellement pour la plus grosse composante des ouvriers. Pour Prima Linea, c'est aussi 1000 personnes. 1000 personnes, c'est-à-dire 1000 personnes qui ont été arrêtées et condamnées. C'est pas... Et pour PL, pour Prima Linea, la majorité de l'organisation, c'est plutôt des étudiants, des jeunes. Et pour les NAP, c'est moindre parce que les organisations ont grossi au cours des années 70 par des accélérations du mouvement. Par exemple, les Brigades Rouges, c'est une guérilla assez classique de quelques dizaines de personnes en 75-76. Et après, le mouvement de 77, le grand mouvement insurrectionnel de la jeunesse de 77, ça passe à plusieurs centaines. C'est-à-dire que ces organisations ont dû modifier toute leur structure pour pouvoir intégrer autant de militants. Parce qu'on imagine que pour... ça, je peux en parler avec le jeu, pour faire vivre une organisation où il y a simplement 15, 20 personnes dans la clandestinité, c'est des braquages réguliers, mensuels et plus. Pour 200 personnes, ça demande un financement incroyable. Et pour moi, c'est une version, on n'a pas fait de collectif critique sur ces années, ensemble, les Allemands, les Italiens, nous et d'autres composantes. Quand une organisation passe à 800 membres, pour moi, c'est impossible à vivre plusieurs mois d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'argent, des appartements, des voitures, etc. etc. Et il y a eu parce que là, quand Hugo a fait un speech à la chapelle, il y a un autonome qui a dit les organisations de lutte armée ont tué l'autonomie. Bon, c'est vraiment une vulgate tout à fait journalistique que le militant reproduit comme ça, comme si c'est une vérité, on ne sait pas d'où elle vient. Et non, quand le combat s'est vraiment durci en Italie, c'est-à-dire 77, les autonomes ont dû se poser la question. Est-ce qu'on continue à faire nos petits trucs alors qu'il y a une répression intense dans le pays, où on choisit, nous aussi, de rejoindre les organisations de lutte armée? Ah ben, il y a plusieurs centaines, à peu près 1500 autonomes, qui ont décidé de rejoindre les organisations de lutte armée, que ce soit les BR, que ce soit Prima Linea. Donc, il faut voir l'histoire dans le conflit, pas nous sortir une théorie comme ça que un journaliste, le discours des dissociés et des repentis ont fait ces imaginaires complètement absurdes. Non, c'est la répression qui a tué l'autonomie en Italie. C'est vraiment la répression qui a mis devant chaque militant le choix où tu rentres à la maison chez papa et maman, où tu te bats. Et il y a beaucoup de militants qui ont dit, ben, nous, on va se battre. Et ils ont rejoint. Par exemple, vous vous souvenez ces images de 77 où on voit deux camarades en train de tirer sur la police. La veille, il y avait eu une manifestation à Rome qui avait tué une jeune militante autonome. Et en réponse, un groupe de quartiers, du quartier de San Vittore à Milan, a décidé d'ouvrir le feu sur la police. Ils le font, c'est ces images où on voit un tireur comme ça, j'ai oublié son nom. Mais le soir, ce militant, il n'avait pas où aller dormir, il n'avait pas où se cacher, il n'avait pas de quoi vivre, il n'avait rien. Donc, qu'a fait ce militant? Le premier contact d'une organisation de lutte armée, il l'a rejoint. Les deux qu'on voit tirer sur la police ont rejoint une organisation de lutte armée. Ce n'est pas les organisations de lutte armée qui ont voulu tuer l'autonomie. C'est absurde. Justement, il y a un rapport dialectique entre le mouvement, entre les prisonniers et les structures armées. Sinon, si ce rapport dialectique se rompt, il n'y a ni lutte armée, ben c'est ce qui s'est passé avec nous. Hein. En 83, l'effondrement du mouvement en France a fait qu'on s'est retrouvé un peu seul. Et seul, on ne peut pas continuer. Seul, ce n'est pas l'imaginaire comme ça. On n'est pas dans la jungle de Bolivie. Et en plus, dans la jungle de Bolivie, c'est ce qui s'est passé pour le Che. C'est-à-dire, au bout d'un moment où tu as plus le contact avec le mouvement ou avec les masses, ben, tu meurs. Les gens qui disent, ouais, mais Action Directe, ils n'ont jamais eu le contact avec les ouvriers. Mais comment on aurait tenu 10 ans sans le contact avec le mouvement, avec les gens, avec les militants, avec les zones où ça bougeait? Donc, mais quand, imaginez en France, tout ce qui restait de l'autonomie serait rentré chez nous, on n'aurait pas pu vivre non plus. Donc c'est un équilibre, la guérilla, c'est un équilibre très fragile, toujours très fragile. Et je voulais revenir sur un point, parce que Pasquale y tient beaucoup. Il nous avait envoyé un texte, je veux qu'on dise ça, je veux qu'on dise ça, et je veux qu'on dise ça. Alors donc moi, je vais le dire parce que pour lui, dans la lutte armée, il y a trois contradictions qui sont effacées. C'est la différence entre le travail manuel et le travail intellectuel est effacée parce que tout le monde fait la même tâche. Et il cite un exemple qui est très caractéristique, le personnage emblématique, bon, ce n'est pas Moretti, mais Prospero Gallinari, qui était un grand historique des BR. Il a été grièvement blessé par la police et arrêté alors qu'il changeait les plaques d'une voiture. C'est-à-dire il faut sortir de l'imagination qu'il y avait ceux qui pensaient et puis les sbires qui agissaient. Ça, dans aucune guérilla, ça n'a pas existé. Ça n'a pu exister. Donc, deuxième contradiction, c'est homme et femme. Dans la guérilla, il n'y a jamais eu, et c'est la première fois dans les groupes révolutionnaires, il n'y a jamais eu de différence homme-femme dans l'action, dans la réflexion, dans la direction. Des grandes guérillas ont été dirigées par les femmes. Maraca Gol comme fondatrice des Brigades Rouges, Ulrike Meinhof en Allemagne, et on peut citer partout. Les femmes faisaient les mêmes tâches, donc ces tâches combinées travail intellectuel et travail actif. Dans la contradiction politique et militaire, dans les organisations de guérilla, ça n'existe pas. C'est une histoire absolument... Bon, il y a des gens, la direction du parti par rapport à la guérilla et tout ça, mais dans l'action de la guérilla, l'essentiel, c'est la fusion du politique et du militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mec qui reste à la maison en disant « Bon, je vais réfléchir à ce qu'a écrit Lénine et vous, allez braquer la banque. » Non, non, non. Non, tous les militants participaient aux actions. Donc, ces trois conditions de résolution de contradictions étaient effectives dans les organisations. Quand on va dans un milieu... qui a toujours les idées tout arrêtées sur tout. Oui, les Brigades Rouges, c'était super hiérarchisé. C'était des chefs. Il y avait les sous-chefs, les petits caporaux et les mecs qu'on envoyait au casse-pipe. Mais ça, c'est on diffuse, quand on raconte des conneries comme ça, on diffuse de la contre-propagande de la bourgeoisie. Le processus de la lutte armée, c'est une formation des militants parce que la formation doit être totale d'un militant qui rentre dans une organisation de lutte armée parce qu'il se peut que sur un ou deux militants va se reconstruire l'organisation après un coup de filet, un coup de répression. Donc toute organisation a besoin que chaque militant soit capable de reproduire l'organisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Par là, on retrouve l'autonomie. C'est-à-dire que chaque militant doit, comme dans Action Directe, chaque militant doit savoir faire des faux papiers. Il est instruit à toutes les méthodes. On transmet le plus rapidement possible, dès l'intégration, toutes les méthodes de lutte et toutes les capacités politiques à pouvoir assumer la relève. Donc ça change des discours, les chefs, les petits soldats.
Ouais. Par rapport au fait de transmettre le plus vite possible, c'est des gens quand même que vous connaissez depuis un bon bout de temps, parce qu'il y a toujours la peur derrière chez
vous. Oui, ça c'est évident, oui. Il y a toujours des filtres. Les gens ne rentrent pas du jour au lendemain sur un coup de tête parce que leur copain l'a quitté ou autre chose dans la guérilla. C'est un processus. C'est des contacts longs. C'est un apprentissage. C'est une politisation. Mais effectivement, il faut que tous les militants... C'est arrivé, par exemple, lors d'une arrestation de la RAF, ils ont la police a arrêté vraiment le noyau le plus actif de la RAF. Et c'est un groupe de quatre femmes, qui sont venues dans un pays étranger en disant ben, « Nous, on n'est pas totalement formés. » Et là, ça recommence le processus. « On va vous apprendre à voler des voitures, on va vous faire... » etc., etc. Et ces quatre femmes ont produit une nouvelle RAF, la continuité de la RAF, avec d'autres militants qui les ont rejoints, etc., etc. Donc, des fois, ça tient à un fil, une organisation. Par exemple, les NAP n'ont pas pu se reproduire. Parce que c'était au tout début, on n'était pas... c'est pareil pour nous en Espagne. Hein, ça a été très difficile, après un très gros coup de répression, de renouveler l'organisation. Mais donc aussi parce que c'était le début du processus et qu'on n'avait pas accumulé cet art de la guerre, hein, et cette unité du politique et du militaire.
Sur cette question des compétences et de l'unité du politique et du militaire, moi, il y a une anecdote de Pasquale que je trouve super intéressante et qui montre bien aussi ce que c'est la spécificité de la séquence italienne avec la centralité de la figure du prisonnier. Il explique que dans ses premières années de délinquance, il est passé... par la case prison un bon nombre de fois, et donc c'est à ce moment-là qu'il s'est politisé au contact de militants de l'extérieur, d'extrême gauche, et il explique, c'est la première fois que j'ai été en contact avec les théories révolutionnaires, en particulier Lénine, et il disait ça a été beaucoup d'apprentissage et tout ça. Et en retour, moi, je discutais avec ces militants révolutionnaires qui me disaient vouloir renverser l'État et mettre en place une société communiste. Et je leur disais, camarades, vous n'avez jamais braqué une banque, vous ne savez pas comment on vole une voiture, vous ne savez pas poser des bombes, et vous voulez renverser l'État, et vous voulez faire la révolution. Et du coup, il explique qu'il y a vraiment un échange à ce moment-là de pratiques, de terrain, de comment on va fabriquer une bombe, comment on va braquer des banques, et qu'en retour, les militants d'extrême-gauche les nourrissent de théories révolutionnaires. Et que c'est ça qui crée la jonction et qui donnera naissance par la suite au noyau armé prolétaire, donc il l'explique très bien dans le livre. Et autre élément, on a parlé tout à l'heure de la question de, est-ce que la lutte armée a détruit l'autonomie italienne, blablabla. Je pense que l'intérêt d'un témoignage comme celui-là, c'est par le biais de cette réalité historique qui transmet et de la centralité de la question de la vérité, c'est de pouvoir justement tirer le bilan de ces expériences et de se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'on a une séquence révolutionnaire aussi forte qui s'ouvre et qui se referme aussi vite? Et pourquoi les groupes, les organisations politiques, les groupes de la lutte armée n'ont pas réussi à construire cette effervescence politique? Et quand on discute justement avec Pasquale et avec les autres militants de cette époque-là, eux, ils disent clairement que l'échec, au-delà de la question de l'importance centrale qu'occupe la répression à cette période-là, qui a effectivement été très très forte, mais pour eux, l'échec, il est surtout au sein des organisations politiques et il existe au sein des organisations militantes. Et c'est un échec qui est principalement théorique, c'est-à-dire l'incapacité pour eux, pour les militants révolutionnaires de l'époque, de transformer leur appareil théorique, leur appareillage théorique marxiste-léniniste en l'occurrence pour les Brigades Rouges, et l'adapter aux réalités de la transformation du système d'accumulation capitaliste de l'époque et la difficulté d'appréhender le tournant néolibéral des années 70-80 avec la fragmentation de la figure un peu centrale de l'ouvrier masse, de l'ouvrier social et du délitement progressif du mouvement ouvrier de l'époque, avec aussi une difficulté à penser le phénomène supranational, notamment par le biais des organisations telles que l'Union européenne qui prennent une place de plus en plus forte à cette époque-là, la difficulté à appréhender les problèmes que pose l'OTAN et aussi la difficulté à appréhender les problèmes que pose la dimension que prennent les firmes multinationales et transnationales à l'époque. Et du coup, cette focalisation sur la question de l'État qui a donné lieu à un décrochage politique sur l'analyse qui était faite de la situation et de la place de la classe ouvrière à l'époque. Il y a aussi des échecs pratiques dans la question de la massification de l'expérience de la guérilla et de la clandestinité à l'époque. Parce qu'on est à une séquence où, en 77-78, les BR attirent de plus en plus de monde. C'est le cas des BR, c'est le cas d'autres organisations de la lutte armée. Et la question se pose alors de comment on pérennise une guérilla et on garantit l'existence d'organisations qui existent dans la clandestinité avec un doublement, voire un triplement de nos effectifs. C'est-à-dire comment on, à la fois, permet aux militants qui vivent dans la clandestinité de vivre, sachant que tu as 800-900 personnes à nourrir, tu dois leur donner de l'argent, tu dois leur trouver des logements, tu dois les financer, tu dois leur donner des armes. Ça pose aussi des questions de transmission de l'information, parce qu'une organisation clandestine qui tourne à 150-200 militants, en termes de fuite potentielle de désinformation et tout ça, c'est pas la même chose que quand on n'est qu'une trentaine. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi à chercher dans ces dimensions-là, quand on parle de la séquence et des échecs de la lutte armée, plus que dans la question d'un truc très simple, très simpliste, de dire la lutte armée a détruit l'autonomie italienne.
Je pense qu'à partir de 79-80, nous nous voyons au niveau européen se rencontrer et on était sur notre lancée de cette crise de la bourgeoisie qui était finissante pour nous, qu'il suffisait de donner des coups pour l'abattre, pour transformer des situations de révolte en situations révolutionnaires, comme ça s'était passé au Portugal, comme en Espagne, ça a failli se passer, il s'est passé à deux doigts. Essayer de transformer vraiment la situation. Et c'est pas, au départ, on ne s'est pas rendu compte que la bourgeoisie préparait cette transformation, le passage au néolibéralisme, à la mondialisation. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on patinait, quoi. On a dit, tiens, c'est bizarre, ça réagit plus, le mouvement ouvrier s'éclate, le mouvement autonome s'écroule, il se passe quelque chose. Donc, par exemple, les Brigades Rouges ont commencé à théoriser le système international des multinationales. Essayer de voir que l'État changeait, que c'était plus seulement un État national, mais c'était ce système international des multinationales qui dominait. Tout le monde a essayé de réfléchir dans son coin. La première offensive commune de la guérilla en Europe, c'est 79. Les Italiens enlèvent un général américain et qui était le commandant sud de l'OTAN. Et la RAF frappe un général, le chef de l'OTAN nord, en Allemagne. Cette opération s'est menée en coordination du début à la fin. Mais malheureusement, les contacts disparaissent pendant quelques mois parce qu'il y a eu une arrestation. Et quand on reprend les contacts au niveau de comment réfléchir au niveau européen pour affronter la nouvelle situation, là, justement, nous, on participe. J'ai participé personnellement à ces réunions et on essaie de réfléchir. Chaque guérilla a essayé de donner des pistes, mais on a commencé à essayer de réfléchir collectivement. Mais c'est trop tard. Concrètement, historiquement, maintenant, on le voit, c'est déjà deux ou trois années trop tard, cette proposition. C'était quand on était très nombreux, c'était quand on était très fort qu'il fallait faire cette proposition, pas en 82, 83. Et surtout qu'à l'intérieur des prisons, et là-dessus, le livre est super important, comme il décrit comment l'intelligence des Brigades Rouges à l'intérieur, suite à des grands procès, va commencer à vraiment poser la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas ? Et c'est le moment d'une grande scission dans les Brigades Rouges, entre la première position et la deuxième position, et qui vont amener à deux guérillas différentes. Les PCC, Parti communiste combattant, qui va continuer, et d'un autre côté, Union des communistes combattants, qui va continuer de son côté. Les deux vont travailler avec nous. Donc on les connaît très bien, on les connaissait très bien, et on connaissait les problématiques. Les prisonniers ont essayé de sortir par le haut de cette situation, parce qu'ils ont vu aussi qu'à l'extérieur, on n'était plus que des poignées de militants. En Allemagne, en Italie, en France, on n'était plus que des poignées. Et on a espéré, bien sûr qu'on a espéré un renouveau révolutionnaire, parce qu'on ne peut pas agir sans le mouvement, sans la force du mouvement. C'est bien, on peut faire une ou deux actions exemplaires comme ça et dans le vide des contacts. Mais c'est pas ceux qui amènent une dynamique. Nous, on est important, on était important. Mon éditeur m'a toujours dit « emploie l'imparfait ». On était important dans cette radicalisation des moments que créait le mouvement. Parce qu'on ne frappe pas comme ça une guérilla. On dit « oh ben voilà, Georges Besse est un gros bourgeois salaud. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ben ouais, c'est bon. Non, c'est 2 ans de lutte à Renault quand tous les gens... Parce qu'il faut voir les dossiers d'enquête. Il y a plus de 2000 enquêtes sur des ouvriers qui ont dit « il va falloir le liquider, ce salaud ». Et il a fallu l'épisode du pub Renault sur les Champs-Élysées quand les flics ont tabassé les ouvriers sur les trottoirs, que c'est dit ben, « il faut faire une action exemplaire. Mais une action exemplaire, elle ne tombe pas comme ça du ciel. Bon, il y a beaucoup de gens. Là, on ne fait pas du tout de propagande pour la lutte armée, hein, sachez-le. Ce livre, Pasquale est rentré en prison il y a 50 ans. Donc, mais qu'on empêche de dire des conneries ou de penser des conneries de cette période. Oui, nous... On a eu beaucoup de discussions entre nous tous, de savoir où on allait avec ça, quoi. On lisait les textes des prisonniers qui nous disaient « attention, là, il y a une déconnexion, ça se voit. On ne peut pas continuer comme organisation de masse. On était des organisations de résistance, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas sortir à plusieurs centaines avec des armes dans la rue. On va droit dans le mur. Il y a eu plein de discussions là-dessus. Ce livre, déjà, inaugure cette discussion parce qu'il parle au moment des procès moraux, l'État italien a regroupé tous les membres des Brigades Rouges dans une même prison. Alors, il faut imaginer, c'est le premier congrès. Ils ont pu faire, après des années d'isolement, un premier congrès en se posant les questions. Voilà, il se passe ça. Quelle proposition on a par rapport à ça ? Comment l'État italien perd sa souveraineté de politique ? Comment, pourquoi nous qui avons toujours reposé sur les grands ateliers du nord de l'Italie, on s'aperçoit qu'on n'a plus les contacts, qu'on n'a pas le contact avec cette nouvelle forme d'ouvriers. Et on le voit aujourd'hui. On appelle à la grève et on appelle à la grève et on appelle à la grève générale. Mais si on ne comprend pas la nature du prolétariat dans les pays métropolitains, on ne peut pas saisir que la grève, ce ne sera pas la grève de 68, une grève massive, parce que la majorité... Des prolétaires, la grande majorité des prolétaires sont dans des situations de précarité et d'éclatement qu'on a du mal. Regardez, avec ce mouvement, on est toute la population est contre cette loi, on n'arrive pas à bloquer le pays réellement, concrètement. Parce qu'aussi, le prolétariat, c'est plus le prolétariat des années 50-60. La preuve, la CFDT a même dit, il vaut mieux, c'est bien les manifs le samedi. Oh, ben oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de prolétaires qui ne peuvent pas arrêter là où ils sont. Donc il faut revenir toujours aux actualités. Mais ça a commencé à ce moment-là. Cette situation que vous vivez aujourd'hui avec le néolibéralisme, justement, nous, on s'est affrontés aux premières années du néolibéralisme. Et on a perdu. Mais il n'y a pas que nous qui avons perdu. Il y a les syndicats qui ont perdu. Il y a toutes les organisations révolutionnaires. Jusqu'à l'Union soviétique, ils ont détruit. Et on paye aujourd'hui par une guerre fratricide cette période-là, quoi. Bon, on va passer aux questions, non ? On a fait... Donc...
Moi, j'ai une question sur le titre. Anna.
Pasquale, il le dit bien mieux que nous, hein, et avec beaucoup plus d'émotion. Mais du coup, Anna, c'était la compagne de Pasquale pendant 48 ans, qui l'a suivi toute sa vie. Ils se sont rencontrés quand il avait, 18 ans, non ? Ou une vingtaine d'années, max. Et donc, ils se sont rencontrés au début de sa vie de militant politique. Ils sont restés ensemble tout au long du parcours carcéral de Pasquale. Et elle est décédée en 2018, donc tout récemment. Du coup, lui, il dit qu'il dédie toute son œuvre politique, théorique avec ce livre à Anna, qui du coup l'a accompagné et l'a soutenu.
C'est-à-dire, c'est une femme qu'il a connue au moment où il était délinquant et qui a fait le choix de continuer à vivre avec lui alors qu'il était devenu un militant politique, un prisonnier. Et comme il le souligne, il dit c'est vrai, en prison, on ne garde pas des archives. On ne garde pas cette mémoire. Qu'il a pu travailler ce livre grâce à elle aussi, parce qu'elle avait gardé toutes les lettres, tout ce qu'elle pouvait garder de l'activité des prisonniers politiques dans leur lutte contre l'État italien, tout, elle avait tout gardé. Donc ces couples fusionnels avec la politique au milieu, et voilà. Donc ils ont eu des enfants ensemble, et voilà. Pas des bébés parloirs, non, mais... quand l'État italien a eu très peur, donc c'est la fin des années 70, il a commencé à projeter tout un scénario en disant à tous ces prisonniers, à toutes ces personnes arrêtées, si tu te repens, si tu avoues tout ce que tu as fait et ce qu'ont fait les gens que tu connais, tu sors immédiatement. Si tu es inscrit dans la loi italienne, ce n'est pas une réduction de peine, c'était tu sors.
Et si tu participes à l'action de la justice.
Oui, si tu participes.
Pas se repentir,
oui. Voilà, mais si tu dénonces ce que tu as fait et ce que tes copains ont fait. Donc, alors il faut imaginer. Dans les 600 personnes qui sont tombées cette année-là, il y avait des gens qui n'avaient rien fait. C'est arrivé à des systèmes de perversion totale. Des gens qui ont dit lui, il a fait plein de trucs, il avoue et tout, il a dénoncé, il est sorti. Mais moi, je n'ai rien fait. J'ai été trois fois dans un appartement, j'avais rien à dire. Et c'est là où l'État a dit. Oui, mais bon, on peut te faire dire ça, tu vas dénoncer celui-là, tu vas lui dire celui-là, il a tué celui-là, il a fait ça, etc., etc. Ben, le mec, il signait et il sortait. Et ça, c'est les repentis. C'est arrivé à une histoire complètement d'une complexité absolue, parce que dans la fin des années 90 et au début des années 2000, on a poursuivi des gens de l'OTA Continua, pour le meurtre du commissaire Calabresi. Calabresi, c'était un commissaire qui a participé au Gladio et qui a lancé toute la presse après un attentat dans une banque à Milan, un premier attentat du Gladio. Il a dit non, non, c'est les anarchistes qui ont fait ça, j'ai les éléments, c'est les anarchistes. Et il a fini par balancer par la fenêtre, lui ou un de ses complices, Pinelli, le camarade de Pinelli, un cheminot anarchiste, a le tué. Et donc tout le mouvement s'est mis à dire Calabresi, on va te liquider. Et. Donc, il y a très peu de temps, c'est bon, 20 ans, ouais, c'est très peu de temps. Il y a 20 ans, à peu près, il y a un mec qui est sorti de l'ombre et qui a dit, bon, ben, je me repens. J'ai fait partie du commando qui a tué ce commissaire. Et c'est les chefs de l'OTA Continua, Sofri et d'autres, c'est eux qui m'ont donné l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut prouver contre ça? Rien. Et Sofri, qui avait fait une carrière intellectuelle, qui était journaliste, qui avait son histoire, c'est comme si on venait chercher Julie pour l'affaire Pierre Auvernet. Et c'est pareil. Julie est devenue ce qu'il était devenu. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on aille le chercher, on lui dise « Bon, on a trouvé celui qui a tué Tramoni, l'assassin de Pierre Auvernet, et il a dit que c'était toi qui lui avais donné l'ordre. » Comment tu veux réagir? C'est ça, un repenti. Il y a des dizaines d'histoires d'anonymes comme ça qui se sont retrouvés poursuivis pour meurtre parce qu'un mec n'avait rien à raconter à part que, ben tiens, lui, il n'a pas grand-chose sur le dos, le commissaire qui dit, ben on va lui en coller un, quoi. Et un dissocié, c'est autre chose. C'est une action politique de l'État contre les collectifs de prisonniers et... Le fait d'être prisonnier, d'agir contre l'organisation dans laquelle tu étais. C'est-à-dire, il y avait, et il y a toujours, hein, d'ailleurs, toujours dans les greffes des prisons, un formulaire qui dit « Je me dissocie de l'action de l'organisation pour laquelle j'ai été condamné, tous les actes, etc. etc. » On avait besoin, tu as besoin de dénoncer personne. Tu dis « je suis dissocié ». Voilà. Et là, dès cet instant, une camarade italienne me parlait de la hantise à ce moment-là parce que ça a touché énormément de gens. Parce qu'il y avait énormément de gens qui étaient de peu de temps dans la guérilla, qui n'avaient pas une histoire, qui n'avaient pas perdu des camarades au combat, etc., etc., qui étaient très... et que la prison et que les sections d'isolement, il faut avoir connu les sections d'isolement pour savoir comment ça brise quelqu'un. Donc, il y avait une camarade dans une prison spéciale qui disait qu'elle avait peur la nuit d'entendre les portes s'ouvrir. Parce que quand une porte s'ouvrait la nuit, ça voulait dire que quelqu'un était sorti du quartier spécial et était amené en détention normale, c'est-à-dire un dissocié. C'est-à-dire quelqu'un avec qui elle passait toutes les cours de promenade et tout ça. Quelqu'un qui était très proche d'elle avait décidé de se dissocier. Et il y avait une hantise des prisonniers politiques du départ discret de camarades qui... Ils passaient en régime normal. Donc, en régime normal, les lois italiennes étaient très progressistes. Par rapport aux lois françaises, c'est très progressiste. C'est-à-dire que quelqu'un de condamné à perpétuité, au bout de 10 ans, il pouvait aller en semi-liberté, il pouvait avoir des permissions, etc., etc. Jusqu'à... Voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'opération Chamois. C'était de vraiment faire un truc de fer autour des prisonniers. Et parce que les lois pénitentiaires italiennes sont assez tranquilles, quoi. C'est vraiment dominé par l'idée italienne catholique voilà. Et donc on sort pour un perpétuité, c'était vraiment minimum, quoi. On te faisait faire 10 ans, 11 ans, 12 ans maximum. Mais les dernières années, tu les passais en semi-liberté. Etc., etc. Donc, tu avais un avantage énorme à te dissocier individuellement. C'est-à-dire, c'est que tu trahis deux choses. Tu trahis tes camarades qui sont dans les quartiers de force et tu trahis ta propre lutte, quoi. C'est vraiment... Et toute la réécriture, comme Franceschini, un des fondateurs des BR, qui s'est dissocié. Après, tu commences à raconter ce que les bourgeois racontaient sur ta propre organisation, alors que tu sais que c'est faux.
Ah, c'est comme ça que ça se perpétue, en fait.
Voilà, comment toutes ces histoires internes qu'on nous montre, c'est où ils te font confirmer toute la contre-propagande qu'ils t'ont jetée sur toi. Par exemple, Franceschini, dans son livre, continue à dire que l'école Hyperion, parce qu'ils ont besoin, tu sais, c'est dans ce que je disais, ils ne peuvent pas imaginer que des proles, des ouvriers d'usine, peuvent créer une organisation de lutte armée et frapper durement la bourgeoisie. Ils ne peuvent pas le concevoir. Donc, ils ne peuvent pas concevoir que les brigades rouges ont été aussi puissantes, aussi qu'elles aient frappé juste. Ils ne peuvent pas le concevoir. Donc, ils se sont dit, il y a une bande d'intellectuels à Paris, certains italiens et d'autres pas, ils sont tellement forts avec les neurones que c'est sûrement eux qui dirigent tout ça. Et donc, on a Franceschini dit, oui, c'est vrai. Moretti, il est allé voir celui-là, parce que ça... Voilà, ils inventent les chefs.
Et ça, c'est une des raisons qui a poussé à l'arrestation d'universitaires et de militants opéraïstes au moment des arrestations suite à la condamnation à mort d'Aldo Moro. En particulier, par exemple, Tony Negri, qui a été arrêté parce qu'il était considéré par l'État italien comme le penseur. Celui qui alimentait théoriquement les brigades rouges.
Le grand vieux.
Ce qui, en plus, bref. Et lui, par exemple, il a fait partie de ceux qui se sont dissociés de l'activité de la lutte armée à l'extérieur en 78. Donc la question de la dissociation, elle a touché effectivement des militants de la lutte armée, qui du coup se sont dissociés des actions que leur propre groupe menait à l'extérieur de la prison, mais elle a aussi touché des militants autonomes et opéraïstes qui n'avaient rien à voir avec la lutte armée et qui étaient considérés comme les penseurs de ces mouvements-là. Et du coup, on leur a proposé de se dissocier. La plupart l'ont fait et avec voilà, ils l'ont assumé comme tel. En particulier Tony Negri.
Bon, s'il n'y a plus de questions, on va aller boire une bière parce que j'avais jamais bu autant d'eau là. Merci. Merci à vous.
C'était Rencontre avec les éditeurs Hugo Oliveira et Jean-Marc Rouillon, autour du livre « Je courais en pensant à Anna, voyage à travers les luttes radicales italiennes des années 1970 » de Pasquale Abatangelo, paru aux éditions Premier Matin de novembre.
Radio Livre d'Armand.